C'était pas allumé. Bien. Donc, l'objectif de cette contribution est de décrire en fait les conditions dans lesquelles émerge ce qu'on pourrait qualifier de comportement responsable face au harcèlement moral. Alors, ce n'est pas un papier qui a été positionné, je dirais, initialement autour du thème de la reconnaissance. Mais en échangeant avec certains des organisateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité de, je dirais, de convergence avec la thématique de cette journée. Alors, le cadre, je reviendrai dessus, c'est celui de la théorie des parties prenantes. Et on va voir que c'est aujourd'hui le cadre dominant pour penser la responsabilité sociale de l'entreprise et peut-être même de manière plus large de... une manière de penser, je dirais, la responsabilité sociale des organisations à l'égard de ce qu'on va appeler donc les parties prenantes. Alors, ce papier a été réalisé avec un collègue de Paris 12, donc François Grima, donc, que je représente indirectement aussi. Voilà. Alors, on va d'abord commencer par le contexte de réflexion. Donc, le contexte, c'est celui du harcèlement moral. Alors, je précise que, en fait, j'ai fait une recherche, enfin, dans le cadre de ma thèse, sur la fonction de tiers dans les conflits interpersonnels, en faisant un peu une sorte de typologie des formes de tiers qu'il pouvait y avoir. Et ce travail s'inscrit un peu, je dirais, dans la suite de cette première recherche. Donc, ce qui est intéressant dans le harcèlement moral, d'abord, c'est que c'est une forme de violence qui n'a été reconnu socialement que tardivement. Et avant d'entrer sur d'autres éléments, il faudrait préciser donc le fait que, au fond, le harcèlement moral fait partie de ce qu'on pourrait qualifier d'une violence interpersonnelle. Donc ça se situe dans une forme de conflictualité qui n'avait que peu de chances d'être reconnue parce que, au fond, la gestion des ressources humaines s'était construite dans une histoire plutôt collective, c'est-à-dire une vision des rapports sociaux construite plutôt sur la logique de classe, de rapports dominants-dominés collectifs. Et donc, tout ce qui relevait, je dirais, plus de l'intime avait peu de chances d'être reconnu. Alors, je vous renvoie aussi aux travaux, naturellement, de Christophe Dejour là-dessus, qui montre justement comment la souffrance... finalement est une question personnelle et intime et comment elle avait toutes les chances d'être méconnue par l'ensemble des parties, c'est-à-dire à la fois par les gestionnaires des ressources humaines mais aussi par les partenaires sociaux qui eux aussi naturellement avaient tout intérêt, je dirais, à penser collectif. Et donc dans les questions qui se traitaient dans ce qu'on peut appeler les négociations, ce qu'on appelait les relations industrielles, c'est-à-dire les relations entre salariés, direction du personnel, partenaires sociaux, etc., ce thème n'avait aucune existence. Ça commence à avoir une existence à partir d'un livre qui est un événement, je dirais, qui a eu un effet un peu de surprise. C'est-à-dire qu'encore une fois, tout le débat est construit hors de ces questions. Et tout à coup, il y a une autre question qui émerge, et qui émerge en fait plutôt du champ privé. C'est-à-dire que l'ouvrage de Marie-France Irigoyen, le premier ouvrage sur le harcèlement moral, est un ouvrage qui situe à la fois des cas dans le domaine du travail, mais aussi beaucoup dans la sphère privée. Donc il n'était pas initialement positionné par rapport à des questions de travail. Et c'est simplement que cet ouvrage a joué le rôle de révélateur. Et à partir de ce moment-là, est sorti un deuxième ouvrage en 2001 et qui a été plus orienté autour vraiment des situations de travail. Pourquoi j'insiste aussi sur tous ces points-là? C'est pour montrer que socialement, au niveau de l'ensemble de la société, le phénomène lui-même n'a été reconnu que par surprise. C'est-à-dire que personne n'est habitué à cette époque-là à en parler. Le deuxième constat qui va dans ce sens-là, c'est que lorsque Marie-France Irigoyen parle, à l'époque, elle parle en tant que clinicienne, qui donc a des personnes qui viennent dans son cabinet et qui lui parlent de leur situation. Donc c'est une surprise, je dirais, qui vient de l'intime, hein, et qui tout à coup va devenir une question politique. Elle devient une question politique donc à partir non seulement de son ouvrage, des travaux du Conseil économique et social, et qui vont, je dirais, favoriser l'émergence des premières lois, donc en matière de harcèlement moral, notamment lors des lois de modernisation sociale. Alors, pour en finir avec ça, je dirais que le harcèlement moral, il était dans une situation de non-reconnaissance, au sens où finalement la reconnaissance part de la capacité à partager quelque chose au sujet d'une situation. C'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord à parler de quelque chose. Et donc ce qui a fait qu'on s'est mis d'accord à parler de cette chose, en l'occurrence, ça a été le succès du livre de Marie-France Irigoyen. Voilà. Alors ensuite, ce que constate Marie-France Irigoyen, c'est que finalement, en tant que clinicienne, elle voudrait alerter certains collègues, notamment des médecins du travail, et qu'elle se rend compte que les acteurs qu'elle a autour d'elle sont tous très gênés par rapport à la situation. Et donc que finalement, tout le monde étant gêné, tout le monde partage, je dirais, une volonté d'occulter. Et donc on est dans une situation de non-reconnaissance partagée. Quand la loi apparaît, on pourrait penser cette fois-ci, bah, c'est bon, maintenant il y a une situation de reconnaissance. Et je vais vous prouver rapidement le contraire. Lorsque ce projet d'article a été présenté la première fois dans la revue où il a été accepté, la réponse de l'un des évaluateurs a été de dire, mais on ne voit pas l'intérêt de ce papier dans les sciences de gestion parce que ce n'est pas une question de gestion. Hein, c'est une question qui est réglée par la loi, donc elle n'a pas d'intérêt pour le gestionnaire, il suffit de s'en remettre à un autre tiers pour finalement gérer ça. Et donc finalement, là, on se rend compte que la loi peut avoir naturellement un caractère déresponsabilisant. Je vous renvoie là-dessus à l'ouvrage de Boltanski de 99, La souffrance à distance, et sur laquelle il réfléchit, je dirais, sur la construction de la posture de tiers dans la société, et où il vous montre des situations en remontant parfois très loin, parce qu'il va jusqu'à dans des textes bibliques, et en montrant comment, selon la posture dans laquelle on est, les textes entre guillemets auxquels on fait référence, eh bien, on peut se mettre en situation de ne pas voir celui qui souffre. Il donne par exemple, dans les textes bibliques, la situation d'un prêtre qui passe devant un souffrant, et vous savez. Voilà, la traditionnelle position, effectivement, qu'on reproche aux Samaritains de ne pas voir, etc. Et de se draper, je dirais, d'une vertu en disant, moi, au fond, je n'ai pas à voir ces choses-là parce que j'incarne la loi. Alors, malgré tout, c'est une situation qui interpelle les organisations, ne serait-ce que d'ailleurs de manière pragmatique, parce que quand dans votre entreprise ou dans votre organisation, vous avez des cas de harcèlement avérés, ça ne donne jamais une bonne presse. Et donc c'est à la fois un problème, je dirais, pour, je dirais, la communauté organisationnelle dans son ensemble, et puis naturellement pour les personnes qui ont à gérer ça. Et donc ça nous renvoie à la question sur la responsabilité de l'organisation et la responsabilité du dirigeant. Et on va voir que naturellement, la théorie des parties prenantes a été construite comme un cadre pour penser cette responsabilité, avec d'ailleurs deux objectifs. Le premier affiché, c'est celui de répondre aux menaces extérieures et intérieures, et finalement de légitimer l'organisation face à ces menaces. Et deuxièmement, il y a eu, je dirais, après d'autres formes de prétentions liées à ce cadre, à savoir de mieux entendre les parties prenantes qui n'étaient pas suffisamment entendues, et notamment, par exemple, l'un des promoteurs majeurs du modèle des parties prenantes, qui est Freeman, racontait une anecdote assez amusante. Il disait, la première fois que j'ai envoyé à mon éditeur mon livre sur ce qu'il appelle donc les stakeholders, c'est-à-dire ceux qui représentent des enjeux, l'éditeur lui a téléphoné en disant, vous avez fait une faute d'orthographe, sans doute, est-ce qu'on peut remodifier le titre? Vous avez sans doute voulu parler des stockholders, c'est-à-dire les actionnaires. Voilà. Donc, au fond, on est quand même dans un modèle gestionnaire où il y a un acteur qui, a priori, est surreprésenté, et la théorie des parties prenantes était là pour faire valoir que d'autres parties ont droit d'être reconnues, ou en tout cas ont légitimité, dignité, etc., à être reconnues. Et donc, ça pose la question, est-ce que ça a marché? Est-ce que la théorie des parties prenantes est un cadre adapté. Pour ce faire, je vous propose le cadre théorique suivant. Nous allons rapidement voir à la fois quelles sont les caractéristiques du harcèlement moral. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vous renverrai à l'article, mais je vous donnerai quand même un peu les éléments majeurs. Ensuite, je vous présenterai la théorie des parties prenantes, donc en me demandant si déjà c'est un cadre de reconnaissance de la souffrance et de la responsabilité organisationnelle. Et dans une troisième partie, je vous proposerai un complément à ce cadre, avec l'idée que peut-être que il faut concevoir la notion de responsabilité de manière différente pour pouvoir finalement être concevoir un cadre, je dirais, d'attention à l'autre. Alors, d'abord le harcèlement moral, quelles sont ses caractéristiques? La première caractéristique, si vous prenez les définitions notamment de Marie-France Irigoyen, qui ont, je dirais, assez bien été reprises quand même dans la loi, c'est la dimension de caractère systématique, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de détruire l'autre, qui est systématique, intentionnelle, ce qui pose d'ailleurs des problèmes en termes de droit, parce qu'après il y a la question de comment on démontre les intentions, etc. Alors, je fais peut-être juste un petit insert par rapport à ça. Si vous voulez, c'est que ces questions de droit elles-mêmes posent des questions sur la manière de fonctionner du droit en général et de ce qu'il peut reconnaître. Parce qu'au fond, habituellement, la qualification des faits se fait sur des preuves. Et en l'occurrence, dans le cas du harcèlement, c'est quand même souvent très difficile de recueillir ces preuves. Donc, on va tomber sur des problèmes, notamment aussi de secret médical, de déontologie, je dirais, de part et d'autre. Et donc, on a tout un système, je dirais, et notamment juridique, qui va faire que ça ne va pas forcément être facile de reconnaître ce fait, et qu'à l'inverse, on peut aussi aller dans la tendance inverse, qui serait de surinterpréter, c'est-à-dire, par exemple, de voir du harcèlement partout. Hein, c'est-à-dire, au fond, et ça a été le problème du développement de ces lois et qui a nécessité un rééquilibrage, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une explosion des procès, tout le monde se voyait harcelé. Et donc, je dirais que la loi a finalement été instrumentalisée. On pouvait même finalement avoir des cas un peu extrêmes, c'est-à-dire du harceleur qui utilise la loi sur le harcèlement. Contre l'autre, en fait, qui harcèle l'autre en disant il me harcèle, etc. Alors, donc j'ai évoqué le caractère systématique, intentionnel. Il y a aussi la durée, qui est quelque chose d'importante. C'est-à-dire que généralement, on compte que c'est au minimum quelque chose qui se joue sur 6 mois, 1 an. Hein. C'est pas, on peut par exemple avoir un manager qui est caractériel. Bon, bah, c'est pas pour autant qu'il soit harceleur. Et il peut s'énerver un peu vite, il peut être un peu dur dans la manière de dire les choses, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut qualifier ça de harcèlement. Dans le champ de la gestion, on catégoriserait ça à la limite du côté de ce qu'on appelle les comportements déviants des managers, en sachant d'ailleurs qu'il y a eu toute une mode d'utilisation du stress comme outil de gestion. Hein. Alors c'est d'ailleurs assez marrant, puisqu'on a eu la mode du stress, enfin, ou plutôt, on a eu la mode. Du management par le stress, et puis après on a eu la mode des comportements déviants qui dénonçaient ces pratiques de management. Alors, ce qu'on peut en retenir, c'est que finalement le harcèlement moral est un processus qui fait disparaître la personne. J'insiste là-dessus parce que comme on est ici dans une journée d'études sur la question de la reconnaissance, Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir un processus qui fait disparaître. Alors, comment fait-il disparaître rapidement? Eh bien, par la délégitimation. C'est-à-dire que une personne tient sa place dans une organisation, hein, si je prends un peu des critères anthropologiques, à partir de sa position symbolique, c'est-à-dire de la manière dont sa place est énoncée dans une organisation. Tu fais ceci, etc. Elle est assignée, si on peut dire, elle a une adresse symbolique. Hein, et ensuite, elle a aussi, je dirais, sa place et sa possibilité de reconnaissance à travers de ce qu'elle fait. Et finalement, eh bien, le harcèlement va avoir pour objet de finalement sortir la personne de ses réseaux, décrédibiliser la personne. Donc ça peut être par exemple par des rumeurs. Au lieu d'aller voir, par exemple, on a un problème, au lieu d'aller voir la personne directement pour résoudre le problème, ben non, on va plutôt aller voir les collègues, elle dit qu'elle fait des choses qui sont pas, qui marchent pas bien, etc. Et donc au lieu de chercher à résoudre les problèmes, on cherche plutôt à isoler la personne. Alors, en termes de technique de résolution de conflit, j'évoque la chose rapidement. On parlerait en fait de ce qu'on appelle personnification des conflits, c'est-à-dire au lieu de se focaliser sur le problème, on se focalise sur la personne. Et en termes de processus, naturellement, on a affaire à une logique sacrificielle, c'est-à-dire que plutôt que de dire voyons comment ça fonctionne, quels sont les problèmes qu'on a, on va essayer de trouver un responsable, quelqu'un sur qui on peut, je dirais, taper. Et finalement, dans l'organisation, comme parfois on est dans des situations de stress, ça fait du bien de taper. Donc on se met d'accord sur quelqu'un avec qui on va taper, puis on va taper tous ensemble et ça fait encore une fois du bien. Alors je vous renvoie là-dessus à René Girard, naturellement, et toutes les mécanismes de violence mimétique. Voilà. Alors, la deuxième conséquence indirecte qui nous intéresse par rapport au cadre de la théorie des parties prenantes, c'est la délégitimation de la personne à être entendue. C'est-à-dire qu'au fond, on va voir que toute la théorie des parties prenantes est constituée sur l'idée que les parties doivent, pour être entendues, être légitimes. Or ici, on a encore une fois un processus qui fait disparaître la personne. La personne qui va pas bien, qui se sent exclue, etc. Au lieu de l'écouter, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ah ben non, mais t'inquiète pas, non, non, c'est toi qui es parano, tu interprètes, tu vois mal les choses, etc. Et donc plus la personne va essayer de communiquer sur sa souffrance, et plus finalement elle va s'enterrer elle-même. Hein? Puisque tout le monde autour va dire, mais ouais, non, mais décidément, elle en fait trop, elle revient toujours là-dessus, etc. Elle n'est pas positive. Donc c'est elle le problème. Et donc on a un mécanisme dans lequel le groupe exclut la personne et dans lequel la personne souvent s'auto-exclut elle-même. Et au bout d'un moment, quand en plus elle est mal à l'aise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à être un peu nerveuse, à être de plus en plus stressée. Donc je dirais les conditions de stigmatisation vont augmenter. Alors maintenant, donc on en arrive à la question, est-ce que la théorie des parties prenantes est un cadre donc adapté pour reconnaître cette personne? Alors j'ai déjà évoqué le fait que, au fond, cette théorie est arrivée à un moment où on donnait trop d'importance à l'actionnaire et pas assez aux autres parties, et où on s'est dit donc il faut être dans un modèle où on entend ces fameuses parties. Alors derrière ça, on peut dire rapidement que c'est en liaison avec une crise de légitimité des organisations en général, de leur mode de gouvernance. On peut dire, si vous êtes dans une organisation qui n'accorde aucune reconnaissance aux partis, eh bien finalement, au bout d'un moment, vous savez que les partis qui ne sont pas entendus, si je prends le modèle par exemple de Hirschman, Volksexit Loyalty, il va dire les personnes vont au minimum partir ou vouloir se manifester autrement. Bien. Si je prends une lecture un peu plus psychanalytique, je dirais que moins les gens se sentent entendus et plus ils deviennent violents. Et plus je dirais que c'est un climat organisationnel qui va se développer autour de fantasmes, je dirais un peu entre guillemets morbides, au sens où désir de faire disparaître l'organisation et donc attaque contre le cadre, etc. Alors, Donc la théorie des parties prenantes, elle est fondée sur plusieurs socles. Et la première approche, donc, est une approche dite descriptive. Alors, avant peut-être de dire, au fond, de détailler, je vais peut-être rapidement expliquer pourquoi ces différents socles. Donc, approche descriptive, instrumentale et normative. L'idée, ça a été de dire, bon, bah, il faut, encore une fois, fonder un nouveau mode de gouvernance qui soit légitime, et on va trouver plusieurs manières de le faire. L'une des manières traditionnelles, et je dirais qui remonte au moins à l'Antiquité, c'est la philosophie. Donc, c'est l'approche normative que j'ai présentée ici. La deuxième approche va être de dire, oui, j'ai mis un O au lieu d'un P, désolé. L'écriture était un peu rapide. Oui, voilà. Alors, c'était, voilà, hyper normatif. Alors, il y a naturellement d'autres socles, mais l'un des socles vraiment dominants, hein, a été Kant. Et bon, je montrerai après pourquoi cet universalisme. C'est vrai que c'est une manière de légitimer la théorie qui est assez forte. Alors, l'approche descriptive, qui finalement domine de manière pratique, c'est de dire que on regarde comment les gens se manifestent comme étant responsables. Et à partir de ça, on construit une théorie en disant on va favoriser ça. Donc, il y a eu des travaux, par exemple, sur les cultures d'entreprise et est-ce qu'elles favorisent les valeurs, la responsabilité, etc. Un climat éthique, bien. Ces approches descriptives, ce qu'elles mettent surtout en avant, au fond, c'est la notion de salience, c'est-à-dire que un acteur est repérable ou non. Et au fond, ce qui compte, c'est que de prendre en compte les acteurs qui sont les plus importants. Dans ce sens-là, cette approche converge avec une deuxième approche qualifiée d'instrumentale et qui l'a clairement dit, nous, on se moque de savoir si on a des bons principes. Ce qui nous intéresse surtout, c'est d'être légitime. Parce que, en termes de stratégie organisationnelle, donc là on est vraiment dans le champ de la stratégie, hein, eh bien au fond, il faut, pour qu'une entreprise se développe, entendre les parties les plus menaçantes et leur donner, encore une fois, les reconnaître. Et donc là, bah, du coup, c'est fondé sur, encore une fois, là aussi, bah, quelles sont les parties qui sont les plus visibles. Et d'autre part, quel est leur intérêt, enfin, quel est l'intérêt à les entendre, quelles sont leurs positions de pouvoir. Je donne un exemple, le salarié harcelé, a priori, tant qu'il est tout seul, il a peu de pouvoir. Le jour où les médias sont là, naturellement, il a déjà plus de pouvoir. Et donc l'approche normative, vraiment, elle est fondée sur des principes et en particulier l'universalisme kantien, qui est de dire, nous vraiment, on est sur une logique où on est attentif à tout le monde. Ce qui est bien derrière, c'est qu'il peut y avoir même un écho avec, je dirais, des maximes qui ne sont pas spécifiquement kantiennes, mais qui sont plus liées, je dirais, à l'héritage judéo-chrétien, à savoir de ne pas faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse. Et simplement, la spécificité de la reprise de Kant dans la théorie des parties prenantes, c'est que c'est une vision restreinte et qui est restreinte en fait par la notion de partie prenante elle-même. Hein? Puisque on donne attention à tout le monde, et il y a tout le temps un jeu de confusion là-dessus, qui introduit d'ailleurs une non-reconnaissance de l'autre. C'est-à-dire on dit on est ouvert à tout le monde et en petit pointillé on dit à tout le monde qui nous menace. Ça on le dit donc en plus petit. Ok? Et donc, ce qui fait que on a un cadre qui va avoir une légitimité très forte, puisqu'on va dire on écoute tout le monde. Et simplement, on va dire en plus petit, on n'écoute que ceux qui vraiment savent se faire entendre. Merci, ouais, donc je vais aller beaucoup plus vite. Alors, la dernière chose en termes de contradiction, c'est que ces approches-là, du coup, par exemple, vont dire ben, est-ce qu'on accepte ce qu'on appelle les hypernormes ou pas? C'est-à-dire, il y a des choses, par exemple, du genre, je ne devrais pas vendre du lait frelaté dans tel pays, enfin, ou du lait dans tel pays parce que les conditions d'eau, etc., ne sont pas satisfaisantes. Et la théorie des parties prenantes, disons dominantes, va dire que ça, c'est ce qu'on appelle des hypernormes, et qu'on est dans un domaine de réflexion restreint qui est l'économie, et que l'économie, de ce point de vue-là, est un champ de réflexion autonome, donc qu'il ne devrait pas avoir à prendre ces questions morales en compte, si ce n'est sous un angle pratique, c'est-à-dire quand on a la question à se poser, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on va utiliser l'éthique, je dirais, de manière instrumentale. Vous voyez que derrière, il y a une vraie question de cohérence. Et donc, globalement, déjà dans la théorie, il y a des auteurs qui disent qu'au fond, dans les parties prenantes, il y a ce qu'on appelle des parties qui ne prennent pas, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnues. Alors du coup, ben, le problème, c'est que on a une approche qui est fondée sur la reconnaissance de l'autre, qui est à la fois déjà limitée par le fait qu'on s'intéresse a priori aux plus menaçants, et d'autre part, on a une approche qui finalement, même si elle voulait entendre toutes les parties, serait encore trop fondée sur la raison. Et j'en arrive au dernier point, et je me limiterai peut-être au cadre théorique, on présentera plus les éléments peut-être dans la discussion après, où je donnerai des réponses à vos questions, c'est de dire que finalement, même si je voulais être universaliste kantien, souvent j'ai quand même une conscience qui fait que elle peut marcher par ce que les psychanalystes appellent du clivage. C'est-à-dire que je veux être gentil, mais quand même je suis tout à fait capable de me cacher certaines choses. Voilà. Et donc de ne pas reconnaître l'autre. Alors au fond, d'un point de vue phénoménologique, Lévinas va se poser la question, mais dans quel contexte finalement je suis capable réellement d'être responsable face à l'autre et d'entendre sa légitimité. Alors ça renvoie à des travaux de Lévinas, notamment son ouvrage Autrement qu'être. Et au fond, ce que Lévinas voit dire, c'est deux choses. La première, c'est que la responsabilité, on peut la penser de deux manières, et que, au fond, il faudrait, pour vraiment être capable d'être responsable face à l'autre, être capable de penser à ces deux modes de conception de responsabilité. Or, généralement, on n'en entend qu'une des deux parce qu'on est dans une logique que on pourrait qualifier de réduction de la dette à l'égard de l'autre. C'est-à-dire, au fond, je veux que les autres ne puissent pas m'attaquer en me disant « tu n'as pas été responsable ». Et donc, finalement, je vais être plutôt dans une logique d'imputabilité que de réponse à celui qui m'interpelle. C'est-à-dire que au fond, là, il y a un débat linguistique qu'avait traité Ricoeur, donc où il reprend les deux étymologies de la notion de responsabilité, et qui dit donc, bah, il y a d'une part, il y a l'imputabilité, et donc, encore une fois, il y a une autre logique qui est de dire, je réponds au fond à celui qui m'interpelle. Bien. La logique d'imputabilité, qui est la logique dominante, notamment dans le droit, est de dire finalement, est-ce que la personne est impliquée ou pas? Et ensuite, en termes de justice, la question corrélative sera quelles sont les sanctions ou éventuellement les compensations pour la personne qui est impliquée. Donc ça, c'est la logique d'imputabilité. Et au fond, le problème, c'est que si on est directement dans cette logique-là, on est tout de suite dans un processus rationnel où on ne voit pas la souffrance de l'autre, où le plus important, ce n'est pas voir la vulnérabilité de l'autre, mais tout de suite de voir comment le cadrer, comment le faire rentrer dans mon cadre. La logique donc que Lévinas soutient est de dire que encore une fois, il y a d'abord avant ça, avant la logique de justice, il y a d'abord la logique de l'interpellation. Et que au fond, les logiques de responsabilité construites sur la justice, l'imputabilité, elles sont fondées sur les intérêts du moi. Sur, au fond, ce que je suis capable de décrire comme étant. Alors, il y a toute une réflexion, d'ailleurs, phénoménologique, hein, développée justement sur l'idée de dire qu'il ne faut pas trop se focaliser sur ce qui est, parce que souvent, bah, on réduit ce qu'on voit à ce qu'on pense qui est. Et finalement, ce que. Alors, pour faire un lien rapidement avec les éléments de terrain, c'est que finalement, les personnes qu'on a interviewées, elles se sont responsabilisées, je dirais, par rapport à la violence qu'elles vivaient, quelle que soit leur posture, c'est-à-dire comme, entre guillemets, auteur de violence ou victime de violence, tout en sachant que celui qui est victime, d'une certaine manière, participe aussi, puisqu'on est dans une interaction. Ces personnes-là se sont, à un moment donné, reconnues dans l'interaction, donc de violence, par surprise. C'est-à-dire qu'au-delà de tous les intérêts, par exemple stratégique dans l'organisation, au-delà de tous les intérêts affectifs, j'en ai marre, j'ai envie d'écraser l'autre, etc. Je veux pas que l'autre gagne, je veux que ce soit moi. Eh bien, il y a tout à coup un moment que Lévinas qualifierait de vraiment de moment éthique, au sens où l'éthique, ça serait une capacité d'abord de voir une situation et d'être interpellé moralement. Eh bien, c'est un moment de surprise. Et donc, Lévinas dira que autrui nous affecte malgré nous et que le commencement de l'éthique et de la responsabilité, en fait, il est là. Il n'est pas dans des principes de justice, il est d'abord dans le face-à-face avec l'autre, et le face-à-face avec l'autre relève toujours d'abord de la surprise, c'est-à-dire que, au fond, ce qu'il promeut, c'est une vision passive de la responsabilité et du coup d'ailleurs de la reconnaissance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que moi, activement, je vais décider de reconnaître l'autre que réellement je pourrai lui rendre justice. C'est d'abord parce que l'autre m'aura affecté et que quand j'aurai été affecté, au fond, je serai dans une posture passive et que finalement, là, je vais entendre, je dirais, le commandement moral, etc. Alors, dernière chose, c'est ce commandement, du coup, il peut être à la fois par rapport à l'autre, mais il peut être aussi par rapport à soi. C'est-à-dire, ce qui était difficile à faire valoir dans l'article au début, il y avait vraiment une réflexion sur la manière de faire entendre que, eh bien, il y a des devoirs envers l'autre, mais il y a aussi des devoirs envers soi, en tant qu'humain, et qu'au fond, dans les intérêts du moi, eh bien, il y a tout le moment où on est focalisé sur le conflit, où on s'oublie, et il faut vraiment qu'il y ait ce moment, encore une fois, où la personne se dit, bon, qu'est-ce qui est le plus important ? Que je gagne ? Que les intérêts, si légitimes soient-ils, gagnent ? Ou est-ce que, peut-être au-delà de toutes ces interactions de violence, est-ce que le plus important, ce n'est pas d'abord que peut-être je me protège ? Et ce qui fait que, dans ce sens-là, chaque individu a à se reconnaître dans l'interaction de violence. Voilà. Je termine là-dessus. Donc, après, de toute façon, je crois qu'il y aura, un échange. Voilà.
Merci beaucoup. Je vais donner la parole. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, alors l'article, je peux le donner très facilement déjà sur clé USB, mais je peux aussi le donner aux organisateurs et puis donc de manière à ce que ce soit diffusé. Pareil pour le PowerPoint, si vous excitez, enfin, excusez le caractère cistercien du PowerPoint, mais voilà.
Ouais. D'accord. À la fin de la journée, on donnera nos adresses mail et ceux qui veulent récupérer les documents, si on a la permission des intervenants, on la mettra. On les fera passer. Est-ce qu'il y a des questions ?